c'est très important aujourd'hui, c'est faire ce qu'on fait, c'est-à-dire étudier en fait les mouvements contemporains à partir d'une étude et d'une compréhension des dynamiques locales. Il y a un livre de Varnier sur la mondialisation de la culture qui dit justement, qui parle du fait qu'aujourd'hui il y a nombreuses études qui adoptent des approches macro-sociologiques, mais du fait qu'ils ne tiennent pas compte de l'échelle locale, ils sont généralement invérifiables, infalsifiables, dans un mot idéologique. Donc l'approche locale semble être donc pour moi, je pense, les plus adaptées à comprendre à travers les prismes de leur singularité les éléments mondiaux qui investissent ces mouvements. Et en d'autres termes, chaque élément culturel qui est propre de ces mouvements d'aujourd'hui doit être considéré comme une manière d'être du global. Et les cultures contemporaines sont, on le sait tous, de moins en moins des îlots, des îles symboliques qu'on peut penser de façon individuelle, mais leur nature globale peut être vue en fait dans les articulations particulières et toujours différentes qui se produisent aujourd'hui localement. L'objectif de mon intervention est donc celle d'apporter des éléments d'analyse sur les mouvements sociaux contemporains. Et pour ce faire, je partirai de l'objet principal de ma recherche, que c'est les mouvements des bergers sardes. Et ces mouvements, c'est l'expression d'une culture spécifique, celle du monde pastoral, et celle d'un territoire qui est la Sardaigne, et aussi celle d'une activité qui est le pastoralisme. Les mouvements des bergers sardes, si vous voulez, se trouvent dans une position de charnière entre les anciennes traditions rurales qui sont partie essentielle de la tradition historique et culturelle de la Sardaigne et les nouvelles formes contemporaines de mobilisation intégrées dans les réseaux mondiaux. Et, il s'agit donc d'un mouvement, comme d'autres aussi, qui est soumis à une influence qui découle d'un passé et d'un présent. Et, pour comprendre la contemporanéité de ces mouvements-là, du mouvement d'aujourd'hui, et il semble donc nécessaire de considérer la culture à laquelle il fait référence. Une culture qui a ses racines dans des temps très anciens et qui sera, dans cette demi-heure, impossible de résumer, je pense. Dans les années 20, Antonio Gramsci, qui c'était un philosophe qui n'a pas besoin de présentation, je pense, sardes, qui vient de ces mondes-là rural et pastoral aussi, et définissait la psychologie du paysan. Et la psychologie du paysan qui définissait Gramsci dans les années 20, elle était la suivante. Je cite, avec ma traduction, donc ça ne va pas être exactement pareil, je suis désolé. Et une petite ensemble, la psychologie du paysan est comme un petit ensemble des sentiments primordiaux. Dépendant des conditions sociales créées par l'État. Les paysans bergers sont laissés à la merci des propriétaires et des fonctionnaires publics corrompus. Les préoccupations majeures de sa vie sont celles de se défendre corporellement contre les dangers de nature élémentaire, des barbaries cruelles, des propriétaires et des fonctionnaires publics. Donc pour Gramsci, les bergers, ils ne comprenaient pas l'organisation, ils ne comprenaient pas l'État, ils ne comprenaient pas la discipline. Pour Gramsci, l'expérience de la Première Guerre mondiale, ça a été une expérience qui a en fait enrôlé une grande partie des paysans et des bergers, qui les a fait sortir de l'île et leur a fait découvrir un autre univers au-delà de ça. Et pour Gramsci, cette expérience de la guerre changera profondément et leur mentalité et changera leur compréhension du monde, et je cite toujours, les instincts individuels et égoïstes se sont émussés, une âme commune et unitaire s'est modelée, les paysans ont connu l'État dans sa complexe grandeur, dans son immense puissance, dans sa complexe construction, ils ont conçu le monde non plus comme une chose infiniment grande comme l'univers et étroitement petite comme les clochers d'un village, mais dans sa concrétude des détails des peuples, des forces et des faiblesses, des richesses et des pauvretés. En 4 ans de guerre, dans la boue et dans les sangs des tranchées, un monde spirituel a ressurgi, désireux de s'affirmer dans des formes sociales dynamiques. Donc, bien que la guerre a conduit les bergers à une prise de conscience d'un monde que Gramsci définissait terriblement grand, Gramsci a continué à affirmer que tout ce qui caractérise le monde pastoral a toujours été son incapacité de penser à lui-même comme membre d'une collectivité, incapable donc de mener une action systémique et permanente visant à modifier les relations économiques et politiques de la vie sociale. Donc, les bergers, ils restent toujours dépourvus de tout type d'organisation et de tout type d'expérience d'organisation autonome. Donc, le monde pastoral d'aujourd'hui, le monde pastoral dont nous parlait Gramsci dans les années 20, a sans doute énormément changé. Et ces changements ont touché à la fois le travail du berger, sa vie personnelle, ses relations sociales. Et ces changements, je pense qu'ils sont déterminants et très importants pour comprendre comment aujourd'hui il a été possible la naissance d'un mouvement pensé, structuré par les seuls bergers. Donc, un de ces changements qui sont que je considère déterminants sont par exemple l'abandon de la transhumance qui est arrivé en Sardaigne dans les années 80, donc on ne parle pas non plus des temps très lointains, et donc une vie sédentaire qui est totalement nouvelle pour les bergers. L'abandon de la transhumance, par exemple, est très important pour comprendre les mouvements d'aujourd'hui. Si je cite un berger interviewé par moi-même, des transhumants, ça n'aura jamais été possible de se déplacer, d'organiser des réunions, de s'organiser en général, d'envoyer des messages au téléphone ou par Facebook pour nous voir le lendemain. Donc, à travers ces mouvements, comme nous allons voir après, les bergers d'aujourd'hui sont capables de penser soi-même en tant que membre d'une collectivité, d'organiser une action structurée qui lui est propre, et il ne se montre pas indifférent à la compréhension d'un monde dans sa complexité contemporaine. Donc, pour un berger qui s'appelle Fortunato Lardu, qui est un berger sur la cinquantaine du village de Desulo, qui est vraiment au centre de la Sardaigne, là on n'arrive pas à voir ce qui est écrit, je cite, « Le mouvement nous a réveillés d'un sommeil qui a duré trop longtemps, et nous les reconnaissons les mérites de nous avoir mis devant une réalité. » Il nous a fait comprendre comment il était important de regarder le monde en face. Donc, cette affirmation montre clairement que pour mouvement, on n'entend pas ici la mobilisation sociale, mais il faut penser plutôt à sa vie interne. Donc, cela se caractérise par un échange constant d'idées, d'informations et par l'acquisition collective de nouvelles connaissances. Donc, nouvelles connaissances qui sont souvent apportées par les membres les plus impliqués informés du mouvement. Et les assemblées générales, les assemblées en petit comité, des rencontres des villages, des échanges informels des connaissances et d'opinions sur les réseaux sociaux entre groupes plus ou moins larges, représentent tout un ensemble de réseaux de dialogue, d'échanges, de discussions et des développements culturels que nous retrouverons comme une caractéristique essentielle de ces mouvements et de sa vie interne. Donc, ces caractères qu'on peut définir des subjectivités intellectuelles collectives est essentiel pour comprendre la longévité désormais trentennale de cette organisation, sa capacité à élaborer et à ajuster des stratégies de lutte et sa tentative de comprendre les cadres sociaux, les cadres politiques, économiques dans lesquels il intervient. Donc, nous sommes donc confrontés à une subjectivité collective qui non seulement appelle ses adhérents à lutter et à protester, mais les invite également à travers des différents moments de confrontation interne et de vie interne à regarder, comme disait Fortunato Lardu tout à l'heure, les mondes en face. Donc, c'est une c'est une confrontation qui permet de regarder le monde en face, donc de mieux le comprendre. Difficile de trouver, je pense, aujourd'hui, des organisations syndicales, politiques, etc., dont les adhérents ne disent autant. Et, revenons donc à la naissance de ces mouvements. Alors, le mouvement des bergers, et ce mouvement-là, il fait son apparition dans la scène publique en 1991. Donc, la manière même dont il fait irruption l'inscrit en rupture totale avec tout ce qui l'a précédé. Et, en fait, au cours d'une grande manifestation appelée par tous les syndicats agricoles et certains partis politiques, et un groupe de bergers se détache à un moment donné du cortège, sans avoir prévenu quiconque, pour emprunter en fait un parcours alternatif qui débouchait en fait devant le palais régional. Ça a été une manifestation qui a fait beaucoup scandale dans la presse nationale aussi, parce qu'elle est finie avec des brebis qui ont été égorgées et lancées devant les portes du palais du gouvernement régional. Et, la rupture, en fait, elle est évidente avec toutes les organisations syndicales, mais aussi avec d'autres organisations et associations d'agriculteurs et des éleveurs. Et, entre les organisations qui faisaient partie de la manifestation, il y avait l'association des cultivateurs et des éleveurs, que c'est une organisation ancienne d'inspiration catholique modérée, on va dire, la Col Diretti, pour ceux qui connaissent un peu les paysages syndicaux italiens, et l'Union des paysans et des bergers, qui se positionne fortement à gauche, en théorie au moins anciennement. Et la rupture est tout aussi nette avec les mondes coopératifs, la Legacoop et d'autres coopératives minoritaires. Donc, la rupture, elle est surtout radicale à l'égard des revendications portées traditionnellement par toutes les organisations syndicales et politiques. En résumé, l'objet de la discorde ne concerne rien de moins que la vision, les perspectives et les personnes qui avaient jusqu'alors représenté le monde du pastoralisme. Les mouvements des bergers sardes avaient donc l'intention de représenter ses propres adhérents dans une solitude et que je dirais orgueilleuse et choisie. Donc, il partait en effet de l'idée que les organisations syndicales traditionnelles, tout comme les forces politiques auxquelles elles se rattachent, étaient incapables de comprendre la nature même des problèmes des bergers, et c'est de cette incapacité de fond que dérivaient les revendications et les propositions jugées au moins palliatives par les mouvements. La stratégie des négociations syndicales est jugée un échec, incapable d'obtenir des résultats parce qu'elle est trop soumise et trop interconnectée avec les pouvoirs institutionnels. Et je cite un berger du sud de la Sardaigne qui a fait partie qui était présent dans les premières luttes du mouvement. Et nous ne rentrons pas dans leur système, sous-entendu le système institutionnel traditionnel. Parce que nous ne sommes pas faciles à manœuvrer, nous ne fonctionnons pas comme ils veulent. Nous ne sommes pas comme les syndicats qui font une manif avec des sifflets, après ils discutent dans une table avec les élus, puis sortent pour dire à nos bergers, l'élu nous a promis ça. Non, nous allons dire aux élus, vous négligez ça, tout doit remédier. Ensuite on va parler, et on va en reparler quand vous aurez remédié. Seulement après, on dira que le gouvernement régional a fait celle-là. Pour l'instant, je le demande et je le demande en colère. La vie de ces mouvements-là, est, comme beaucoup de mouvements contemporains, oscille entre des grands moments de participation et de mobilisation et d'autres de totale inactivité. En fait, ces fluctuations ne reflètent pas une crise passagère comme on peut voir dans certains mouvements, mais sont intrinsèques à la forme organisationnelle du mouvement. Et, il faut considérer aussi qu'on parle des personnes qui ont l'obligation d'être dans leur lieu de travail constamment pour contrôler leur, pour contrôler leur terrain, et donc ils ont des difficultés aussi à se mobiliser de façon constante, et le font plutôt dans des périodes où le travail leur permet de le faire aussi. Et les mouvements, par contre, il intervient rapidement lorsque des crises, même dramatiques, qui concernent la condition du berger, se produisent. Je cite Federico, que c'est un berger de mon âge, qui dit « Dans les moments de nécessité, les mouvements ressurgissent. Il naît de l'impulsion qu'il y a dans ces moments-là. Quand il y a une difficulté, il arrive, même s'il a ses limites. » Sur cette impulsion du moment dont nous parle Federico, s'est construite en conséquence la réponse collective qui se développe aussi bien en termes de réaction et de mobilisation que comme une proposition alternative contre quelque chose qui est perçu comme injuste et qui frappe la condition du berger. Donc, l'activité de mobilisation s'intensifie donc dans les moments des crises et permet aux bergers de trouver dans les mouvements une, comme ils disent, une grande famille, en fait, un lieu où il est possible s'exprimer, exprimer son indignation, mais aussi organiser sa propre protestation. Donc, mais quel est en fait donc l'objet de cette protestation, l'objet principal de la protestation? La question, elle est assez traditionnelle, apparaît assez traditionnelle, et consiste dans la détermination du prix du lait. Donc, celui-ci, en fait, elle a toujours été fixée par les industriels laitiers auxquels les bergers sont tenus de donner leurs produits, n'ayant pas d'alternative en fait viable. Donc, dans les mauvaises années des ventes de fromage dans les marchés internationaux, les prix du lait payés aux bergers ne couvrent même pas les coûts de production. Donc, c'est pour cette raison-là qu'éclate la protestation dans des formes qui sont aussi violentes. Et, que demandent alors les mouvements des bergers sardes des différents des autres organisations syndicales? En fait, les mouvements appellent à des différents... à des diverses formes de soutien, de protection pour une activité considérée traditionnelle, même si profondément renouvelée dans un passé assez récent, au nom d'arguments qui sont des arguments nouveaux et que je trouve assez contemporains et qu'on retrouve dans d'autres mouvements d'aujourd'hui. Il revendique premièrement la fonction environnementale de l'élevage en liberté et en semi-liberté. Demande aussi que cette fonction soit reconnue et récompensée. Ils disent « Sans les bergers, la Sardaigne meurt. Sans les bergers, la Sardaigne est déserte. » Par conséquent, on parle donc de protection de la biodiversité, d'entretien de l'environnement, de la terre, des conditions hydrogéologiques du territoire très fragiles auxquelles ils se sentent les gardiens. Deuxième chose, les mouvements revendiquent la différente qualité de leurs produits par rapport au lait industriel de toute origine. Ces derniers, les laits industriels, en fait, ils proviennent d'animaux enfermés dans des étables étroites, nourris avec des aliments et des produits chimiques, incapables de survivre à la chaleur, au froid, à la faim, à la soif. Et le bien-être animal est donc pour eux offensé, et le produit est médiocre ou nuisible pour la santé. Le lait du berger sarde est au contraire sain, et c'est ce qu'ils défendent, différent selon les saisons en raison des différents aliments naturels, etc. etc. L'équation faite par les marchés est considérée comme un affront. Et d'une part, et d'autant plus que les études scientifiques aujourd'hui qui ont été faites sur les laits produits en Sardaigne, confirme constamment l'argument environnemental qui est défendu par les mouvements. Donc, les motivations très modernes, je trouve, de la protestation, la préfiguration d'une activité économique environnementale, les propos de déterminer les prix sur la base de la qualité environnementale et non sur la relation entre l'offre et la demande, font comprendre en fait l'immersion intime du mouvement dans la contemporanéité, dans des questions en fait qui animent aujourd'hui les débats, et l'affrontement politique et culturel du monde d'aujourd'hui. Et la conscience de tout cela est profonde et explicite. Et elle est revendiquée comme la caractéristique la plus importante du mouvement par rapport à d'autres organisations syndicales agricoles, mais aussi par rapport à une politique régionale, sarde, nationale, européenne, qui est résignée, selon les mouvements, à subir les choix d'un capitalisme industriel et incapable d'élaborer des stratégies politiques de grande envergure. En dernière partie, je voulais faire un petit parallèle avec d'autres mouvements.
5 minutes.
Oui, c'est bon. Je suis. Et un dernier parallèle avec d'autres mouvements contemporains ruraux. Ces mouvements semblent similaires pour certains aspects et sont très différents pour d'autres. Mais je pense par exemple au mouvement zadiste en France, et ces mouvements-là ont en commun avec d'autres mouvements comme les mouvements par exemple comme les mouvements que je viens de vous décrire, et la nécessité de défendre un lieu, et un lieu de vie et un lieu de travail, et une défense qui en aura à tort de vouloir réduire à des formes de répliques conservateurs, mais qui est et qu'au contraire, on peut penser dépassé par les progrès, cristallisé dans un passé ancien, ce qui n'est pas du tout le cas. Et le monde rural d'aujourd'hui souffre d'un désengagement et d'une violence de l'État d'une part, et semble aussi être l'expression d'alternatives économiques, d'une autre relation avec eux-mêmes, aux autres et au monde dans lequel ils vivent. Parmi les éléments communs de tous ces mouvements contemporains, il y a la préoccupation croissante sur l'environnement, et la lutte pour la qualité de vie et contre la diffusion d'un capitalisme culturel. Si on doit chercher par contre des différences entre ces mouvements-là et des caractéristiques spécifiques du mouvement des bergers sardes par rapport à d'autres mouvements, je pense justement que ça peut être l'Arzac comme Cévennes aujourd'hui, comme Notre-Dame-des-Landes, etc. Et je pense qu'il y en a une qui saute aux yeux. Dans les bergers du mouvement, les choix de l'action et l'élaboration d'une stratégie semble le résultat d'un processus que je trouve particulièrement endogène des changements de la société pastorale. C'est-à-dire un changement qui est aussi historique, comme j'ai essayé de voir dans ma première partie. Comme on a vu, il s'agit d'un mouvement composé exclusivement par des bergers. Leurs stratégies sont donc les fruits d'une réflexion collective qui s'opère à l'intérieur du monde pastoral, d'un monde qui se structure et se définit en tant que nous à travers ses changements et sa vie interne. Et dans ce sens, on peut parler d'une particulière endogénéité du mouvement des bergers sardes par rapport à d'autres. Dans le cas de l'Arzac, par exemple, il semble plutôt que l'élaboration et les choix d'une stratégie d'action soient plus le résultat d'un travail des groupes et des groupes qui sont structurés ailleurs et implantés sur les territoires au moment de la lutte. Et ces composantes, qui pourraient être définies comme des composantes externes ou composites, on va dire plutôt, et qui ont rejoint la lutte territoriale, semblent nourrir et structurer, peut-être plus que la composante locale, les stratégies et les formes de lutte adoptées. Donc la même chose peut être dite des mouvements des Cévennes, je trouve, et des mouvements notables, mais je trouve aussi dans les interventions qui m'ont précédé, on trouve cette richesse des diversités des parcours et des groupes qui ont une structuration et une prise de conscience politique préexistante à la lutte. En fait. L'unité et la cohérence stratégique de l'action, comme il disait Touraine, semble ici plus liée à des agents externes. Donc, l'ARZAC, avec l'objectif, je pense que par exemple, l'ARZAC, il y avait beaucoup d'objecteurs de conscience aussi, des gens qui venaient d'horizons très, très variés et qui se sont unis à cette lutte. Je prends une petite citation d'un militant de l'ARZAC qui répond à la question: les nouveaux arrivants à l'ARZAC ont apporté la forme de la lutte, ou est-ce qu'elle était déjà là? Il répond: ils y avaient déjà pensé. Donc, et je continue à citer, l'idée était dans l'air. Ils y avaient déjà pensé, mais il fallait qu'il y ait plus de gens, comme à Notre-Dame-des-Landes. Il fallait qu'il y ait des gens de l'extérieur, parce que les gens du coin ont aussi d'autres choses à faire. Marx expliquait que les problèmes des paysans étaient leur absence de conscience de soi et donc l'absence d'une expression politique qui leur soit propre, ce qui faisait une classe objet susceptible d'être totalement instrumentalisée. Et les bergers sardes, je trouve, contrairement aux autres mouvements que j'ai cités, ou de façon sûrement plus marquée, trouvent dans les mouvements leur propre expression politique, une expression politique pensée, élaborée et structurée par eux-mêmes. Et le mouvement est donc un lieu qui permet aux bergers de penser à chaque berger de penser à lui-même en tant que membre d'une collectivité, d'élaborer et structurer des actions qui lui sont propres. Donc, c'est un lieu d'échange et de croissance intellectuelle, un lieu de structuration des nouvelles identités collectives et d'élaboration aussi des nouvelles stratégies d'action.
Ok. Merci, Andréa. Merci pour cette présentation. Merci pour le respect du timing. Laurent, est-ce que Laurent Kay est ici? Voici le voilà. Donc Laurent va intervenir justement sur la mobilisation de Sivens entre l'élargissement de la critique environnementale et mutation de l'éthos militant. Ah non. Non. Je suis pas connecté. Non. Vous l'avez pas sur clé?
Non, je n'ai pas sur clé.
Ok. Du coup, j'éteins.
Bonjour à tous, merci tout d'abord pour cet événement qui est très intéressant d'une part et qui pour moi me permet aussi de pouvoir confronter mes premiers résultats. Donc je m'appelle Laurent Pionquet, je suis un ancien communicant dans la fonction publique territoriale, je fais ma thèse depuis 13 mois au LERAS à Toulouse, mais je suis nordiste, ne vous étonnez pas pour l'accent. Je travaille donc, la thèse est en sciences de l'information et de la communication. Et donc je travaille sur l'utilisation des médias en ligne et des réseaux sociaux numériques par les militants pris dans la controverse sur le barrage de Sivens, que tout le monde connaît par la couverture médiatique nationale dont elle a fait l'objet après la mort de Rémi Fraisse. Notre recherche, elle explore les discours déployés au sujet du conflit social sur la pluralité des supports numériques contemporains. Donc site internet militant, blog, pure player d'information, plateforme de journalisme citoyen, Facebook et Twitter, ainsi que les configurations d'acteurs et médias qui sont mis en réseau par le web. Elle tentera d'évaluer si les dynamiques de sens au sujet de l'environnement repolitisent cette notion dans les fragments d'espace public que sont l'internet militant et le journalisme alternatif. Sur le plan méthodologique, cette recherche s'appuiera sur une analyse lexicométrique de contenu publié sur des supports définis, afin de comprendre des classes de discours mobilisées, et sur une analyse des réseaux pour comprendre finalement les configurations d'acteurs. Enfin, nous comptons réaliser une trentaine d'entretiens semi-directifs avec une sélection d'acteurs pertinents, militants de l'information, journalistes citoyens, journalistes indépendants, journalistes professionnels, pour cerner les conditions de production de ces contenus. Ce travail doctoral s'intéresse donc aux usages et aux effets de la communication en ligne, et il offre des indications eu égard à la thématique de cette journée. Primo, les entretiens que j'ai pu mener et les contenus publiés par ces acteurs sur la toile permettent d'identifier leurs motifs de critique environnementale ou de critique associée à la thématique de l'environnement. Secondo, ils peuvent nous éclairer sur les mutations des ethos militants, donc ethos entendu ici comme ethos rhétorique, une manière de légitimer son propos en s'en croyant une position institutionnelle ainsi qu'une voix et un corps, ce qui permet, selon Maguenot, d'opter pour une scénographie qui mettrait en scène une image discursive de soi. Alors, le propos de cette communication s'appuie sur une sélection de contenus recueillis sur le réseau socio-numérique Facebook, et plus précisément sur le groupe ZAP du Testé, selon la forêt de Sylvains, qui est un groupe privé, aujourd'hui qui a plus de 10 000 membres, donc qui est le plus important de la lutte, mais aussi sur les connaissances dégagées par 3 entretiens semi-directifs que j'ai réalisés avec des administrateurs de groupe. Ma présentation n'a donc qu'une visée exploratoire, puisqu'il s'agira pour moi, dans les mois qui viennent, de confronter empiriquement les premières observations décrites ici avec d'autres militants et sur d'autres supports médiatiques. Je dois préciser d'emblée que les militants administrateurs que j'ai rencontrés jusqu'à aujourd'hui ont des profils extrêmement différents, que ce soit en termes de trajectoire sociale militante, de conception de leur propre engagement ou de pratique numérique. Alors bien sûr, je n'aurai pas le temps de vous présenter chaque acteur rencontré. Donc les indications données durant cette communication ne visent pas à tirer des règles générales qui s'appliqueraient unilatéralement à tous ces militants médiactivistes, pour reprendre les termes de Dominique Cardon et Fabien Grandjean. Toutefois, ces indications, elles sont importantes en vertu de la position stratégique qu'ont occupé ces différents acteurs dans la couverture et les cadrages qui ont fait sens dans la mobilisation, du moins d'un point de vue militant. Alors tout d'abord, est-ce qu'à Sylvains, on peut parler d'élargissement de la critique environnementale? Histoire d'introduire, à Sylvains comme à Notre-Dame-des-Landes, nous retrouvons des associations et collectifs qui développent un arsenal rhétorique provenant du répertoire expert qui est valorisé par ce type de mobilisation, comme l'a montré Sylvie Obitreau, donc finalement qui dénonce les dommages environnementaux du projet. Donc, par exemple, sur la zone humide du Testé, l'un des arguments invoqués, c'est la destruction par le barrage de 94 espèces protégées et 300 plantes rares. Cependant, cet argumentaire écologique expert cohabite avec d'autres éléments discursifs, comme des slogans tels que « contre l'aéroport et son monde » et concernant Sylvains, « contre le barrage et son monde ». Ce qui pose la question d'une lecture uniquement environnementaliste de la controverse. En effet, aux yeux de la sociologie des mouvements sociaux, la formule « contre son monde » pourrait traduire la montée en généralité, cette capacité finalement, pour reprendre les termes d'Éric Neveu, à transformer le malaise vécu en injustice, en scandale, au regard d'un système de normes et de valeurs, dans une optique finalement stratégiste, neutralisant l'accusation « not in my backyard » NIMBY, dont on sait qu'elle rejette du côté de l'impur l'action militante, dès lors synonyme d'intérêt particulier. Toutefois, tel que nous l'identifions dans notre travail de recueil de contenu et d'entretien, l'utilisation du contre son monde, ou de l'acronyme GP2I, caractérise deux choses. La première chose, c'est une représentation complexe de la lutte. Et les GP2I sont des lieux de contestation sociale radicale plurielle. Ils renvoient non pas à des luttes closes sur elles-mêmes, mais, pour reprendre les termes de Melucci, à des espaces de rassemblement qui attirent des luttes qui sont différentes. À Sylvains, au lieu de la contestation, on trouvait des agriculteurs, des riverains, des associations environnementales, dont on dira qu'elles se mobilisaient en vertu du projet, et des jeunes altermondialistes radicaux, même si je reviendrai sur l'utilisation de ce terme qui, à mon sens, est un peu problématique. Donc tous ces acteurs ne partageaient ni les mêmes visions du problème, ni les mêmes motivations à contester. Il y a donc une pluralité des représentations de la lutte. En sus, la constitution de zones à défendre permet l'expérimentation d'un vivre ensemble, de lieux de vie, qui font jaillir des problématiques disposant d'une relative autonomie au cœur de la lutte originelle. Dans une ZAD, il y a de nouveaux modes de prise de décision qui sont expérimentés, des façons de travailler qui sont différentes, et également des façons de consommer, qui se vivent au quotidien. Cette richesse thématique sur place aboutit, selon moi, au second phénomène. Ce second phénomène, c'est une modularité discursive de la lutte. C'est-à-dire, aborder ou parler les GP2I, c'est disposer d'une large palette de cadrages. Traiter le problème sous l'angle de l'environnement, donc entendu comme nature ou comme cadre de vie, Ça peut être une critique de des collusions politico-financières. On peut cadrer le problème sous l'angle de l'agriculture ou des dysfonctionnements de la démocratie. Dès lors, ces projets, selon moi, deviennent des plateformes revendicatives, pas uniquement pour grandir la lutte, mais bel et bien parce que la controverse se voit ou se parle au prisme d'autres problématiques sociales ou sociétales. L'usage des médias en ligne agirait finalement comme la caisse de résonance, une inscription technique des représentations de la lutte qui contribuerait en retour à les forger. Alors plus concrètement, quels sont les motifs de la lutte contre ce projet d'infrastructure qui sont mis en avant par les acteurs étudiés? Ces motifs sont bien sûr nombreux, c'est pourquoi je vais me concentrer sur les plus éclairants ou les plus structurants. Alors tout d'abord, le premier motif, c'est parler de la nature, enfin c'est l'environnement vu comme nature, et ça permet aussi de parler des hommes. Alors ici, c'est principalement une militante que j'ai rencontrée qui verbalisait le problème sous l'angle de l'environnement, donc comme nature. Je détaille ici son approche, que l'on peut retrouver sur le groupe Zadu Testé, mais aussi sur son automédia, puisque c'est une demoiselle qui est suivie par plus de 1000 personnes aujourd'hui. Alors la première approche, que je la qualifierais de naturaliste ou sensible du vivant. Je la cite. À Sivin, c'était une journée qui m'avait particulièrement marqué. Je m'étais levé à 5h du matin pour monter dans un arbre pour le sauver. On était perchés dans nos arbres avec nos baudriers. On voyait tout ce qui se passait, c'était déjà le cimetière. Ou encore, après, les animaux, pour moi, chaque être a la même importance. Un humain, un animal, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. Mais cette notion donc de nature, comme je le disais propos liminaire, elle permet d'évoquer d'autres thèmes. En cela, elle n'est pas décorrélée donc, d'autres considérations. L'environnement, selon cet acteur, est aussi un lieu de l'intimité, de souvenirs ou d'une espèce de roman personnel. Elle peut dire, par exemple, « Sivins, c'est un endroit magnifique. Beaucoup de gens peuvent y aller et ça leur tenait à cœur. » Également, elle peut, Sivins permet de développer un argumentaire. Bon, je dirais qu'il est de nature quasi ontologique. L'homme fait partie intégrante de la nature. Elle peut dire, l'homme occidental, la terre, toutes les terres lui appartiennent, il a le droit de détruire des milliards d'êtres vivants, parce que couper un arbre, c'est tuer des milliards d'êtres vivants, tout l'écosystème qu'il a en vie. Mais de quel droit? De la même façon, l'environnement et la nature sont vus comme des victimes du capitalisme et donc permettent la critique de ces armes. On vit dans un monde qui opprime le vivant, car il exploite le vivant, c'est la marchandisation du vivant. Du coup, tant que le capitalisme existera, les animaux seront exploités, il y aura de l'élevage intensif, la destruction de forêts avec plein d'animaux, et ça continuera, ça fera plein de fricologie. Enfin, l'environnement est vu comme un motif de réappropriation potentielle, de réappropriation sur les collectivités territoriales et les intérêts privés. Donc au sujet de la ZAD d'Agen, sur laquelle elle était, elle peut dire « c'est terre fertile ». Il y a l'eau des Pyrénées qui est pure, qui alimente ce sol et qui a été utilisée pour l'agriculture intensive pendant un moment. Ben, ce serait super de se réapproprier ces sols. Ils n'appartiennent pas aux investisseurs ni aux maires d'Agen. C'est pas à eux de se faire du fric dessus. C'est à nous de se réapproprier ces terres. Donc ça, c'est le premier motif que je pourrais donner, donc, qui est finalement une définition complexe et connexe de l'environnement. Le second motif, attaché à cette lutte environnementale que j'ai pu identifier, c'est le rejet du politique, avec des guillemets. Ce second motif de lutte, construit en opposition à, c'est l'occasion d'aborder la construction d'une proto-ligne éditoriale, c'est-à-dire une grille pour les acteurs modérateurs de groupe Facebook, sollicités par des profils souhaitant, alors d'une part, intégrer le groupe, et d'autre part, publier des contenus en son sein. À l'aide d'une discussion privée, les administrateurs communiquent entre eux, débattent de la fiabilité de tels profils et de l'adéquation avec l'idéologie du mouvement, par rapport à tel ou tel poste soumis. C'est ainsi trois rejets de type politique que j'ai pu identifier. Le premier rejet est celui des partis politiques. Un des acteurs me dit « On était d'accord pour dire que tout est politique et que du coup il n'y a pas de publication innocente. Tu soumets tout à la même grille d'analyse, tu vois. À partir de là, c'est du débat politique et tu argumentes. Il y a des trucs sur lesquels tout le monde était d'accord. Ça passe, ça passe pas. Les gens qui venaient racoler pour Mélenchon, tu dégages. » Voilà pour le premier type de rejet dit politique. Le deuxième rejet, c'est un rejet d'agenda politico-médiatique. Je cite un autre acteur. Moi, je ne publie rien de politique. Tout ce qui se passe dans les journaux conventionnels, ça ne m'intéresse pas. Tous les faux problèmes que les médias ou l'État nous mettent dans la tête, comme la laïcité, ça ne m'intéresse vraiment pas. Les batailles entre les filons, les cils et ça, pour moi, ils sont tous dans le même bateau. Pour moi, la politique est un animal mort, un animal malade qu'il faut saigner. Enfin, une attention toute particulière est portée aux sources face à un adversaire nébuleux qui se situe entre extrême droite et conspirationniste, ce que les militants interrogés appellent le confusionnisme politique. Alors pour Corcuff, il s'agit d'un ensemble de passages confus et de plus en plus usités entre thèmes de gauche, de droite et d'extrême droite. Et pour Bévor, il désigne une rhétorique d'extrême droite qui emprunte des thèmes appartenant a priori au bord opposé du champ politique pour masquer un projet qui reste fondamentalement d'extrême droite. Sont ainsi mobilisés la critique du libéralisme, de l'Union européenne, la revendication de la démocratie directe, l'écologie, l'appel à la mobilisation générale, la référence au peuple, mêlé de façon plus ou moins explicite à un discours privilégiant l'adresse aux Français, françaises, l'antienne anti-maçonnique, les thèmes climato-sceptiques, la conspiration, etc. etc. À ce sujet, plusieurs enquêtés m'ont déclaré être très attentif à ce type de thèse. Donc j'en cite deux. Le premier me dit « Des fois, j'ai envie de publier quelque chose, mais je ne le fais pas, car la personne qui l'a partagé est confusionniste, fasciste, homophobe ou sexiste. » Dans mon truc, alors quand cette personne dit « Dans mon truc », c'est dans son automédia, il n'y a pas que de bons militants. Un autre enquêté me dit « Sur le confusionnisme politique, il y a des trucs de fous, des commentaires sexistes ad hominem, nous ont obligés à virer les gens du groupe. Les moutons enragés, c'est pas possible. » Je ne sais pas si vous connaissez les moutons enragés, mais bon, apparemment c'est le troisième site politique le plus consulté en France. Et ce sont des vrais conspirationnistes. Voilà pour le second motif invoqué. Le troisième motif attaché à cette lutte environnementale que j'ai pu identifier, ce sont les violences policières. Plus de 2 ans après la mort de Rémi Fraisse, ce thème est abordé par tous les militants que j'ai rencontrés jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit vraiment d'un traumatisme. Cependant, il semblerait que bien avant le décès tragique de ce militant, la répression ait attiré les acteurs que j'étudie à s'organiser, ou plus simplement à se mobiliser, par solidarité entre les copains. Enfin, pour les copains. Quant aux publications sur cette problématique des violences policières, elles sont bien sûr nombreuses sur le groupe Facebook qui nous concerne. Un sujet, alors ça reste peut-être encore à l'état d'hypothèse, mais la répression des zadistes, la répression au sens large, elle semble catalyser l'antagonisme qui par essence est hétéroclite par rapport à ce projet de barrage. La police apparaît comme l'adversaire, pour reprendre les cadres de l'analyse tourénienne des mouvements sociaux. Pour citer un militant, il me dit « C'est cool qu'il y ait des gens qui fassent les démarches en justice, qui retardent les processus et qui fassent chier au niveau administratif, mais moi je pense qu'il faut aller couler les tractopelles, comme ça il n'y aura pas de chantier. » Mais il faut les deux. Autant des clowns pacifistes qui font les comptes que des black blocs qui vont protéger les pacifistes quand les flics vont charger. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Voilà de façon très rapide, j'en ai conscience, de présenter les grands motifs que j'ai pu identifier, donc ces grands motifs attachés à la lutte environnementale à Sivens, que je rappelle, définition complexe et connexe de l'environnement, antagonisme politique et lutte contre les violences policières. Ce qui me permet d'aborder la seconde partie donc, de cette communication, qui est dédiée aux évolutions, mutations notables des ethos d'activisme. Alors, sur cette partie, afin d'éviter l'effet catalogue qui ne serait pas très intéressant, je vais m'efforcer de répondre à l'exigence pointée par la journée, à savoir tenter de contribuer, alors pour le coup modestement, au renouvellement des cadres de pensée des mouvements sociaux. À ce titre et à l'aune de mon terrain de recherche, je vais questionner différentes notions ici. Je vais questionner l'altermondialisme, ce que le sociologue Geoffrey Players appelle l'engagement préfiguratif. Je vais également questionner l'engagement online comme expérience authentique, pour reprendre les termes de Chamba, et enfin l'empowerment ou la capacitation médiatique. Alors, Sivens, tout d'abord, un mouvement altermondialiste avec des altermondialistes, eh bien, c'est ce qu'il semblerait à plus d'un égard. Tout d'abord, le caractère composite de la mouvance altermondialiste, retranscrit par Levy, correspond bien à l'éclectisme politique de nos enquêtés. Donc pour citer ce sociologue, il parle d'un large réseau décentralisé, multiple, divers et hétérogène, associant syndicats ouvriers, mouvements paysans, ONG, organisations indigènes, mouvements de femmes et associations écologiques, intellectuelles et jeunes activistes. Donc ça, clairement, on le retrouve concernant les militants de Sivens. Ensuite, les militants interrogés se retrouvent, on va dire, dans le corpus des combats altermondialistes, c'est-à-dire soutien à la taxe Tobin, réduction des inégalités nord-sud, etc. Les activistes, enfin, pensent fidèlement à l'adage altermondialiste « agir local, penser global », comme au « don't hate the media, become the media », leur utilisation d'Internet le prouve parfaitement. Toutefois, je tenais à faire à aborder ce thème de l'altermondialisme, parce que pour moi, en fait, ce terme ne doit pas faire écran à l'éthos que les acteurs délivrent à leur propre sujet et qui traduit une certaine fixation sur le plan identitaire. Toutes les personnes que j'ai rencontrées savaient se définir très précisément. J'ai eu le droit à la caractérisation de militante aux médias, de journaliste citoyen ou de musicien engagé. À mon sens, il était important de le signaler. Alors cette diversité de trajectoires militantes ou de manières de se dire n'altère pas des formes de permanence à considérer ces acteurs. Donc, on note très clairement des formes de convergence sur le plan axiologique. Tous les militants étudiés parlent de solidarité, de respect, de tolérance, de recherche de consensus malgré les divergences d'opinion qu'ils affirment. Voilà pour une première réflexion sur le terme d'altermondialisme. Ensuite, je voulais aborder, parce que pour moi c'est très important à considérer ce type de mouvement, ce que Geoffrey Players appelle l'engagement préfiguratif. Alors, l'engagement préfiguratif, Players qualifie d'engagement préfiguratif des militants de type Occupy Wall Street, de telle sorte que l'objectif ne précède pas l'action, mais lui est concomitant, c'est dans l'acte lui-même que se réalise l'objet de l'engagement. Cet engagement est donc éminemment utilitariste, pragmatique, et c'est ce qu'on retrouve parfaitement chez nos médias. Alors par exemple, un de mes enquêtés qui fait des concerts de soutien me dit « Bah, c'est la manière de faire la plus simple, tu vois. » À une époque, on organisait des concerts à Toulouse, tous les deux mois, dans un lieu différent, à chaque fois pour un truc différent, pour des collectifs de squatteurs, on soutient la ZAD du testé. C'est comme ça qu'on peut aider. Quant à un automédia, il me dit « Tu vois, moi je suis un ancien militaire et je ne voulais pas apporter de la violence à la lutte. Je voulais apporter autre chose. Mais quel autre truc demande du courage ? Filmer. Donc j'ai utilisé mon courage pour être là où il faut aller. À l'époque, je pensais ça parce qu'il fallait faire un truc. » C'est dit de façon aussi directe et prosaïque. Cet utilitarisme s'applique également à l'activité online qui m'intéresse plus particulièrement. Un des enquêtés, donc administrateur du groupe, toujours me dit... au sujet du groupe Facebook qui, depuis que la ZAD a été évacuée, est beaucoup moins actif, il me dit « Moi, je m'en fous un peu. J'avais pris la modération parce que, tant qu'il y avait des gens sur place, nous, on faisait le relais, tu vois. Entre les gens qui suivaient l'actualité sur Facebook et les gens sur le terrain, c'était ce truc de modérer les informations et de relayer l'info super vite pour rendre service aux gens qui étaient sur place. Après, du moment où il n'y a plus personne sur place, c'est un peu inutile. » Donc ce pragmatisme est structurant, je pense, à considérer ce mouvement social. Troisième point que je voulais aborder, l'usage militant du web est-il une expérience authentique ? Alors bien qu'on ait affaire à différents profils militants, donc certains qui étaient des zadistes purs et durs, qui contestaient sur place, et d'autres plus distanciés, donc simplement administrateurs du groupe, le militantisme en ligne constitue bien une expérience authentique pour ces activistes. Preuve de cette implication assumée, un des militants nous dit « Mon rôle, c'était traquer les conspis, traquer les fausses informations, checker un peu les profils et puis modérer les publications, aller vérifier les infos. Et au plus fort de la lutte, on publiait sur la lutte, j'étais le Ghostbuster. » Cependant, c'est pour ça que je crois que c'est intéressant d'en parler, au nom de l'action pragmatique que j'ai pu décrire précédemment, les pratiques online seraient le sujet d'une double relégation sur le plan symbolique. C'est-à-dire que la plupart des zadistes méprisent l'usage des objets technomédiatiques. Et à l'intérieur des administrateurs Facebook, le militantisme en ligne est lui aussi symboliquement dévalorisé par rapport aux pratiques offline. Donc pour le coup, ça aurait été bien que je fasse mon PowerPoint, mais c'est pas grave, c'est de ma faute. Ce que je veux dire par là, c'est que l'enjeu pour ces militants communicants, c'est donc de prouver leur attachement à l'action. Donc là, pour le coup, c'était un post qui disait « Bon, bah, c'est bien gentil de blablater sur Facebook, mais la lutte, c'est sur le terrain. » Qui était un moyen pour cet acteur, finalement, de valoriser sa position, mais aussi de dire que c'était, finalement, une militante commune. Enfin, je voulais parler un peu d'empowerment médiatique. Alors, chez les militants étudiés, le militantisme et le militantisme en ligne sont décrits comme des moyens d'apprendre, de se perfectionner et de se capaciter. Cela s'applique finalement sur le plan médiatique. Un des militants nous dit par exemple « Acrimed, j'aime bien, c'est de la critique journalistique. » Il y a quoi aussi ? CDUH, c'est le comité de vigilance de l'usage de l'histoire. C'est vraiment pas mal. Après, je m'intéresse vraiment à tout ce qui est confusionnisme politique, conspirationnisme. Du coup, il y a confusionnisme.info, c'est une bonne source, ça. C'est pas mal, même, bon, ce sont des trotskistes, ça fait un peu chier, parfois. Cette citation est intéressante parce qu'elle montre bien que le militantisme, c'est un moyen de se cultiver et de cultiver une certaine expertise critique, hein, capable d'identifier les bons contenus pour la lutte. Par ailleurs, les militants rencontrés disposent tous d'un arsenal rhétorique critique sur la question des médias. Je cite un militant qui me dit « Mais tout ça, ces médias, ça m'énerve, je les ai vus pas mal faire à la ZAD ou en manif, notamment BFM, ITL et tout ça. Mais tu sais, les journalistes en eux-mêmes, c'était gentil comme tout, hein, c'était des jeunes eux aussi, mais ce sont des pions. C'est pas eux qui font l'article. Et en fait, c'est tellement monté tout ça, c'est tellement mécanisé que j'ai pas envie de devenir journaliste. » Cette capacitation, alors là c'est la puissance du web militant pour le coup, est aussi une opportunité technique de l'entrisme. Donc je cite un acteur pour illustrer. Alors oui, sur le groupe ZAD détesté, il y a de tout, il y a deux parties. Il y a des automédias comme moi qui vont partout dans le monde et une partie de militants, des gens lambda qui sont bloqués, qui veulent des infos. Et dans cela, t'as de tout, des fachos, de gauche, de droite, des jeunes, des vieux. Mais oui, j'arrive à identifier. Il y a certains que j'accepte pour savoir qui ils sont, pour savoir ce qu'ils publient, pour avoir des infos. Enfin, la pratique automédia de la vidéo fonctionne comme un équipement multimédia défensif en cas de violence policière. Donc une militante me dit, les vidéos, si je les fais, c'est parce que des fois, ça aide vraiment les copains lorsqu'ils ont des procès pour montrer ce qui s'est passé. Donc à ce titre, on retrouve clairement la recomposition des rôles dans l'espace public décrite par Héloïse Ney. L'usage de la vidéo permet, pour reprendre ces termes, de souscrire une forme d'assurance médiatique. Alors pour conclure, et reprendre les termes de Xavier Belin, président de la FNSEA, qui nous a récemment quitté, il est difficile de qualifier le militantisme de Sivens de djihadisme vert. La richesse des motifs invoqués, des trajectoires recueillies et des manières de considérer son engagement démontent, à mon sens, cette réduction. Donc, comme je l'ai dit en introduction, cette communication se base sur nos premiers travaux, elle n'a donc qu'une valeur exploratoire, en somme toute modeste. J'ai présenté ici les motifs de l'engagement parmi d'autres, et les plus structurants dans l'argumentation des acteurs que j'ai rencontrés. J'aurais pu en aborder d'autres, hein, comme la solidarité entre ZAD, mais le temps me manquait. J'ai présenté ceci, puis des mutations de l'éthos qui sont importantes, mais désolé. Mais qui reste à évaluer en fonction des acteurs, car pour l'heure, les profils sociologiques et militants de nous enquêter, sont extrêmement différents. Donc, c'est un projet de recherche qui est très stimulant, et les premiers résultats donnent à voir le travail qui me reste à fournir pour objectiver, cette réalité sociale qui est complexe, variable et mouvante. Je vous remercie.
Merci Laurent. Respect parfait du temps à la minute près. Donc c'est au tour d'Alexia, Lucie et Natacha qui vont nous présenter, qui vont nous faire une communication sur Dire et faire Nuit debout, expérimentation d'une nouvelle forme d'organisation sociale et contestataire. Je rallume l'affaire.
à tous. Avant de vous remercier pour l'organisation de cette journée d'études consacrée aux mouvements sociaux, nous sommes ravis d'être présentes et d'écouter tous les travaux aujourd'hui. Donc, Natacha Souya, Lucie Loubert, qui n'est pas présentée, moi-même, Alexa Ducos, sommes toutes les trois doctorantes en sciences de l'information et de la communication à Toulouse, à l'université Poisse-Sabatier, et au laboratoire Comme Laurent du Méras, laboratoire d'études et de recherche appliquées en sciences sociales. Nous avons voulu vous présenter aujourd'hui un travail qui n'est pas votre travail de thèse, que nous avons commencé à mener il y a de ça, il doit y avoir une vingtaine de mois environ, qui est né du désir de tenter de découvrir, dans une démarche complètement exploratoire, comment le mouvement collectif global ou debout, global mais pluriel, protéiforme, qui est aussi ancré localement dans les villes, a priori spontané, fondé sur l'horizontalité, qui n'aurait pas d'instance décisionnaire, de leader ou de représentant porte-parole, et bien comment ce mouvement, avec toutes ces caractéristiques-là, était traité, évoqué, discuté dans les médias, et compte tenu de son rapport qu'il établit avec ces derniers, comme nous allons le voir. Pour ce faire, nous avons titré notre propos, dire et faire mieux debout, expérimentation d'une nouvelle forme de médiation sociale et contestataire. Pour commencer, je vais vous proposer quelques éléments préliminaires de rappel contextuel. Donc, Nuit debout est un phénomène social politique qui est apparu de manière visible, en tout cas, le 31 mars 2016, à la suite d'une manifestation contre la loi travail, El Khomri, et avec la projection du film documentaire Merci Patron de François Ruffin. Dès que le mouvement s'est formé physiquement, qu'il s'est rendu visible dans l'espace public avec l'occupation des places dans les villes, et bien le jour même de sa naissance, de manière concomitante, on remarque qu'une page Facebook éponyme a été créée, qu'un hashtag Twitter, le fameux hashtag Nuit debout, a de suite circulé, que des lives sur Periscope ont également été postés, bref, qu'il y avait visiblement une volonté de se rendre aussi très rapidement visible en ligne. Nuit debout semble donc accorder une place particulière aux technologies de l'information et de la communication. Il dispose effectivement de toute une large panoplie de supports de communication qui ont par la suite vu le jour, à l'instar de TV Radio, Radio Debout, Gazette Debout, hashtag Stream Debout, mais aussi de groupes de discussion sur Telegram, Messenger, un compte Instagram, des forums, des wikis, un Scoopit, un Tumblr, un compte Snapchat, une chaîne YouTube, un compte Bandouzer, bref, énormément d'outils de communication et notamment d'outils de communication numérique avec la création d'un pôle réseaux sociaux, d'un Media Center qui gère tout cela au sein d'une commission communication. Le fer de lance du mouvement qui est celui de la convergence des luttes semble expliquer ce recours à tout cet arsenal communicationnel, ces outils permettant de relier les différentes revendications, idées, propositions, les différents acteurs, mais aussi les différentes échelles territoriales entre elles, et de s'inscrire pleinement dans une vision politique et sociale alternative qui interrelie le local et le global. Désolée. Face à ces postulats, notre objectif a finalement été d'essayer de saisir les enjeux des médiatisations internes à Nuit debout, mais aussi des médiatisations externes, internes versus externes. Et donc nous voulions tenter de comprendre les procédés et les stratégies des différents acteurs, journalistes, citoyens, sympathisants ou opposants, organisateurs, militants, hommes et femmes politiques, qui contribuent à former l'identité collective des Nuit debout et à influer sur ses représentations sociales. Pour ce faire, nous avons mené un travail de recherche qui porte sur les discours médiatiques relatifs à Nuit debout. Nous avons analysé dans une démarche comparative des articles de presse quotidienne nationale, des commentaires issus de Facebook, Nuit debout, et enfin des tweets portant sur le mouvement. En revanche, nous n'allons vous présenter aujourd'hui pas ce travail comparatif, mais nous allons nous focaliser sur nos résultats issus du réseau social Twitter. Donc ici, Twitter. Ce qui nous intéresse ici plus particulièrement avec Twitter, c'est que le mouvement en ligne présent sur le réseau social doit composer dans cet espace conflictuel, hétérogène, avec des enjeux de légitimation, disqualification, solidarité, hostilité, appartenance, démarcation. Nous avons ainsi cherché à repérer, pour commencer, quels étaient les énonciateurs qui parlaient de Nuit debout donc en ligne sur Twitter, quelles étaient aussi les stratégies numériques d'automédiatisation du mouvement, et enfin, nous avons tenté de mettre au jour, en parallèle, l'existence de moments clés dans sa constitution et la présence de thématiques polémiques importantes dans sa vie médiatique. Je laisse la parole à Natacha qui va dessus vous présenter notre corpus et quelques éléments de notre méthodologie.
Alors, cette étude est fondée sur l'analyse d'un corpus composé d'1,452,022 tweets, dont 1,102,493 retweets officiels, c'est-à-dire ceux qui sont obtenus en cliquant sur la fonction retweet et non pas en copiant-collant le contenu d'un tweet dans un autre, et 349,529 tweets uniques. Ils ont été extraits en continu à l'aide d'un logiciel qui permet d'aspirer les tweets en temps réel à partir de hashtags, donc ici le hashtag Nuit Debout. Outre le contenu des tweets, nous avons récolté les noms des comptes utilisateurs, la date de post et la distinction donc entre tweet et retweet. La temporalité couverte par ce corpus s'étend du 31 mars au 31 mai 2016. Donc plusieurs types d'analyses ont été effectuées sur ce corpus. D'abord, une analyse lexicométrique a été faite pour en explorer le contenu thématique. Elle a été faite grâce au logiciel libre Iramitech en ne conservant que les tweets uniques et en éliminant les retweets. Alors, Iramitech permet de classer les tweets ou des textes en fonction de la présence ou de l'absence des mots qui les composent. Donc, en d'autres termes, il classe les textes qui se ressemblent en fonction du lexique qu'ils contiennent. Ce ne sont pas les mots qui sont classés, mais bien les tweets ou des textes, c'est-à-dire un ensemble de mots pris dans leur contexte d'apparition. Donc c'est une démarche inductive que nous avons adoptée et elle nous permet, compte tenu de la taille assez énorme de ce corpus, d'obtenir rapidement une vision à la fois globale, complète et détaillée de son contenu lexical et thématique. Alors pour vous présenter brièvement mais quand même ce contenu thématique, les deux premières classes à se séparer, vous les avez de part et d'autre du graphique ou du dendrogramme. C'est une classe donc en espagnol et une classe en anglais. La classe en espagnol fait référence directement au mouvement du 15 mai ou des indignés espagnols. Et la classe 14 fait référence au mouvement des Occupy. Une troisième classe se distingue ensuite assez rapidement. C'est la classe 13 que vous avez à côté de la classe 14. On l'a appelée la classe Periscope parce que ces segments, donc les textes qu'elles comportent, comportent des liens pour accéder à du contenu vidéo en direct et essentiellement sur Periscope. Le reste du corpus se structure en trois grands univers ou pôles thématiques. Donc d'abord l'aspect organisationnel du mouvement et sa propagation nationale dans les classes. Donc c'est celle-ci dans les classes 10, 8, 2 et 6. Un second ensemble est plutôt lié à la promotion et à la définition du mouvement dans les classes 4, 3 et 9 ici. Et enfin, un dernier pan thématique est composé des moments et des sujets les plus polémiques du mouvement, donc dans les classes 12, 11, 7, 1 et 5 que vous avez au milieu. Après obtention de nos classes thématiques, on a souhaité mettre en évidence leur distribution chronologique. Et donc, on a croisé tout simplement les dates d'émission des tweets avec les classes thématiques que nous avons obtenues. Ça nous permet de voir celles qui apparaissent en continu tout le long de la chronologie ou au contraire, celles qui sont concentrées sur une temporalité plus courte et aussi celles qui connaissent des fluctuations dans le temps. Alors maintenant, on va passer aux résultats. Donc, en vous présentant... On a effectué aussi une analyse de communauté. Là, c'est pour cibler un peu la structuration interpersonnelle du réseau sur Twitter. Et pour ça, bon, on a utilisé le logiciel libre Gephi qui permet donc de faire des communautés à partir des données récoltées sur le nom des comptes et les retweets exclusivement. Cette analyse permet de regrouper entre eux les usagers les plus fortement liés en fonction du poids de cette relation qui est matérialisée par la quantité des retweets qu'ils ont en commun. On obtient 88 communautés, dont 8 contiennent 90% des utilisateurs. Donc on voit qu'on a énormément de toutes petites communautés aussi. et on a conservé pour cette analyse les 7 qui étaient les plus lisibles. Donc maintenant, les résultats avec une présentation de cette structuration d'abord du réseau. Les différentes thématiques que nous vous avons brièvement présentées plus haut ne sont pas investies de la même manière par toutes les communautés d'utilisateurs et on peut répartir ces derniers en 3 grandes catégories. D'abord, des observateurs. Donc, cette catégorie est subdivisée par une communauté constituée essentiellement de comptes journalistiques. Donc, c'est la presse généraliste qui est en orange, en fait. C'est des points assez... clairsemé, c'est une constellation. Donc essentiellement des comptes journalistes, quelques comptes de personnalités politiques et d'intellectuels. On peut citer Le Monde, l'agence France Presse, les ondes de Radio France, Mediapart ou encore l'intellectuel Yanis Varoufakis. Cette presse généraliste investit surtout des thématiques liées au débat démocratique et à la parole citoyenne, qui sont donc des aspects définitionnels assez forts du mouvement. Une seconde catégorie d'observateurs est cette fois composée de live reporters amateurs. Donc ces derniers partagent les liens de vidéos Periscope, se livrent assez peu à un travail de décryptage, voire pas du tout, mais livrent les faits en direct, comme en témoigne leur forte présence dans les classes thématiques qui sont liées à Periscope et à la transmission d'informations factuelles relatives aux occupations des places. Les tweets émis par ces deux communautés, comme je vous le disais, sont plutôt des constellations, sont retweetés par les autres communautés, comme en témoigne leur position intercalaire entre ces deux grosses communautés que vous avez de chaque côté, qui elles sont bien homogènes. Une seconde catégorie d'énonciateurs est constituée cette fois-ci de sympathisants et de militants. Elle se décline à l'international, donc avec une communauté qui est constituée de sympathisants hispanophones et anglophones. Vous l'avez en vert à côté. Donc ils saluent et soutiennent le surgissement de Nuit Debout en écho au mouvement des Occupy ou du 15ème. L'espace international est aussi investi par des comptes officiels Nuit Debout, comme Global Debout, Nuit Debout Partout, Roma Debout. C'est la communauté que vous avez en gris juste en dessous. Et elle semble, elle, plutôt traduire une volonté de diffusion et surtout de structuration du mouvement à l'international. À l'échelle nationale, on retrouve une communauté qui est constituée des comptes officiels de Nuit Debout. C'est la communauté en rose centrale, mais cette fois-ci déclinée nationalement et localement. On y retrouve François Ruffin, qui est donc le réalisateur du film Merci Patron, et le journal Fakir, dont il est fondateur. C'est une communauté militante qui est proche du mouvement et participe à la promotion de Nuit Debout en diffusant les annonces des manifestations et en investissant aussi des espaces de discussion plutôt liés à la nature politique du mouvement et à sa relation aux médias. Donc ce sont des aspects plutôt définitionnels et organisationnels. Une seconde communauté de sympathisants que vous avez en dessous et qui est un peu plus clairsemée aussi, là en turquoise, elle présente la particularité de ne pas comporter réellement de médias d'information. Elle est aussi politiquement située, orientée plutôt à gauche, comme en témoignent les profils des comptes les plus importants. Je vous cite par exemple le tweetos Un homme de gauche qui a 3000 abonnés. Ces tweetos partagent les bilans des commissions, les bilans des occupations et de leurs évacuations, et participe aussi à alimenter les échanges sur la nature politique du mouvement Nuit Debout et sa relation aux médias, donc également dans un aspect définitionnel et organisationnel. Enfin, la dernière communauté est constituée cette fois-ci des anti-Nuit Debout, des détracteurs. Elle est nettement orientée à droite et à l'extrême droite, comme en témoigne la présence de comptes de personnalités politiques tels que le Florian Philippot, Marion Maréchal Le Pen ou encore le compte officiel du FN. Les organes de presse qui sont identifiables directement dans cette communauté corroborent cette orientation. On retrouve le site internet Français de souche, retweet en français, et cette fois plus à droite qu'à l'extrême droite, le Figaro, et pour les chaînes d'information en continu, BFM TV et ITV. Cette communauté, contrairement aux autres, investit essentiellement les conversations polémiques autour de Nuit Debout, donc la question des violences en marge des manifestations, une opposition, on va dire, radicale entre les extrêmes, et également des faits divers qui ont suscité une mise en tension narrative plus spécifique. La structuration de ces communautés montre bien la complémentarité des logiques internes et externes dans le mouvement, interne par l'homogénéité des grosses communautés et externe par la vocation de certaines à se tourner vers l'international, ainsi que par le processus d'infomédiation sociale qui consiste à s'approprier le contenu journalistique en vue d'étayer les positionnements respectifs pouvant être diamétralement opposés. Et maintenant, je passe la parole à Alexia
et on va parler des stratégies d'automédiatisation. Si le mouvement apparaît généralement comme un phénomène citoyen spontané, il n'empêche qu'il dispose, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, de toute une médiatisation très balisée, observable à travers notre corpus, qui participe à la co-construction de Nuit Debout et qui est issue donc de toute la stratégie d'automédiatisation. Nous allons voir trois visées médiatiques que nous avons repérées au sein de cette médiatisation interne et pour commencer, une première visée que l'on a appelée la visée organisationnelle. Il s'agit pour le groupe ici de gérer l'organisation et la coordination du mouvement, donc tout l'aspect logistique. Nous allons retrouver cette visée au sein de ces paquets de la classification qui comprend les classes 6, 2, 8 et 10. À l'intérieur de ces ensembles, on a affaire à des messages qui appellent clairement au rassemblement, qui annoncent les programmes, qui donnent des indications de rendez-vous aux internautes. Twitter prend ainsi les traits d'un véritable agenda en ligne permettant l'annonce et le rappel des actions, commissions et des débats. Le tout dans une démarche fédérative des Nuits Debout au niveau national, local et international. Pour la spatialisation du mouvement, donc on a en classe 6, nous sommes face à la centralisation sur Paris, symbolisée par l'évocation de place de la République, mais aussi des indications d'autres lieux, Saint-Germain, 4e, Concorde, métro, Stalingrad. Au niveau de sa décentralisation, ça se passe à côté dans la classe 2, puisqu'on traite d'autres villes, on parle beaucoup plus de Toulouse, Nantes, Lyon, Montpellier. Puis l'international, nous le retrouvons plutôt dans la classe 8, du côté de l'international francophone, avec des évocations autour de la Belgique et du Canada. Et ensuite classe 14, qui est une classe anglophone, qui fait référence au Occupy, et la classe 15, hispanique. Référence aux indignés. Je rappelle justement qu'il y avait cette volonté, notamment le 15 mai, de faire une journée globale debout qui réunirait tous les Nuits Debout dans différents pays. Au sein de toutes ces classes sont aussi présentes des indications temporelles, avril, samedi, rendez-vous, 18h, mais aussi la présence de dates issues du nouveau calendrier de Nuits Debout qui, souhaitant s'inscrire dans un arrêt de la chronologie, démarre une nouvelle temporalité à partir du 31 mars, donc on voit 42 mars, 45 mars, voilà, les dates propres à Nuit Debout. Donc on peut voir ça avec quelques segments caractéristiques, par exemple, à Paris, le rendez-vous est à 15h, place de la République, encore, Nuit Debout Toulouse, le programme de la journée de demain continue de s'étoffer, de 12h à 15h, il y aura un nouvel atelier sérigraphie et plus de détails sur les organisations. La seconde visée, il s'agit cette fois de la visée définitionnelle. Les réseaux sociaux numériques servent souvent de lieux subalternes pour la diffusion d'idées contre-hégémoniques, pour reprendre les thèses de Nancy Fraser. Cette visée, nous allons la retrouver en fait dans les classes 9, 3 et 4, mais différemment. Les discours répertoriés classe 3 participent à matérialiser l'identité collective de Nuit Debout autour des luttes, des valeurs collectives et d'un projet commun. Ici, nous retrouvons des messages qui pourraient être des phrases de manifeste avec des critiques du système capitaliste mondialisé et financiarisé, une remise en question de la démocratie représentative actuelle, les appels à la convergence des luttes, de tous les dominés, l'indignation face au recours au 49-3, la dénonciation des inégalités dans le monde du travail en termes de salaire, de discrimination, du chômage. Nous voyons que les mots qui reviennent en boucle souvent ensemble au sein de ces segments de texte sont démocratie, citoyen, espoir, social, solution, ensemble, commun, idée, débat, avenir, changement, proposé, droit, partagé, et j'en passe. À côté de ce champ qui touche vraiment au fond politique, au programme en quelque sorte du mouvement, nous avons les discours qui portent plutôt sur sa forme, avec d'un côté le rapport aux médias explicité classe 9, et notamment l'apparition d'un débat qui viserait une sous-médiatisation prétendue des médias traditionnels pointés du doigt. enfin, la classe 4 regroupe quant à elle, de manière encore plus formelle, les informations relatives à l'accès au compte rendu des commissions et des assemblées générales, donc dans un souci de transparence des données, des informations, de faire remonter les échanges sur les places. Attention, donc je fais une distinction entre fond et forme, mais nous comprenons bien ici que les deux sont indissociables. Le fond idéologique, on va dire, et la forme technique sont interdépendantes, interreliées. Enfin, la dernière visée, la visée légitimante, en s'appropriant certains outils médiatiques, nuit debout tente, à la manière d'une organisation, d'une entreprise ou d'une marque, d'influer en quelque sorte sur son image. Et en tant que mouvement politique social qui essaie de rallier des individus, de les impliquer comme on l'a vu, l'enjeu de la réputation est primordial. Avec l'usage du live reporting, brisant le monopole du direct dévolu à la télévision, qui consiste en des partages de vidéos périscopes majoritairement sur Twitter, et la pratique du copswatching, où Debout cherche à remodeler sa réputation, parfois mise à mal. La classe 13, qui est celle du direct, est constituée en grande partie de partage de liens pour accéder à ces vidéos. Pour indication, certaines vidéos périscopes ont rassemblé 80 000 internautes simultanément. Le succès de ces vidéos en direct. Dans le cas du cops watching, il s'agit de filmer les affrontements entre les manifestants et les policiers. Les images produites sont érigées en tant qu'image preuve face aux détracteurs du mouvement et par là même de bénéficier de visuels pouvant être utilisés pour établir ou rétablir la véracité des faits, notamment dans le cas de heurts avec les forces de l'ordre, en remettant en cause les versions officielles qui pouvaient attaquer les militants souvent qualifiés de casseurs ou de personnes violentes. De plus, cette pratique peut constituer un pouvoir de pression sur les forces de l'ordre qui, se sachant filmer, pourrait permettre d'éviter certaines bavures. En revanche, cette pratique demeure ambivalente, puisqu'avec le direct, elle échappe à la recherche de cohérence et de cadrage du mouvement, ce qui entraîne moins de maîtrise sur l'image. Le direct permet et ne permet pas la maîtrise de l'image, ce qui est contradictoire à la fois, qui peut se révéler en tout cas problématique. Et les derniers résultats, par Natacha.
Alors, l'étude du contenu des classifications nous a aussi permis d'identifier des zones de clivage particulièrement intenses dans le débat. Elles interrogent et questionnent toute la légitimité de Nuit Debout et elles participent à façonner et jauger son capital réputationnel, l'enjeu étant de défendre ou de dénoncer, selon que l'on soit pro ou anti Nuit Debout, la crédibilité des actions et des manifestations. Alors, la première de ces thématiques clivantes se concentre autour de la catégorisation des participants à Nuit Debout et de ses détracteurs, mais surtout des participants. Elle est bien présente donc dans la classe 1 du corpus, qui foisonne d'étiquettes disqualifiantes, hein, je vous en ai pointé quelques-unes. On a bobo, branleur, fainéant, gauchiste, anarchiste, islamo-gauchiste, utopiste, emmerdeur, extrémiste, qui sont opposés aux moutons, réactionnaires, collabos, tandis que les plus neutres incitent simplement à aller voir sur place se faire sa propre idée, ou encore ceux qui insèrent Nuit Debout dans la question du renouveau démocratique pour le légitimer. Alors, les participants de Nuit Debout sont ainsi des fainéants et fauteurs de troubles. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer, de vous lire quelques exemples. Ça serait pas mal que cette armée de glands, ce troupeau de branleurs de Nuit Debout, bosse au lieu de leur branlette citoyenne. Nuit Debout, c'est l'heure d'aller au lit, au lieu de faire chier les gens qui dorment et qui bossent et se lèvent tôt. Vous remarquerez au passage, pour ceux qui connaissent Renaud, la belle subversion des paroles du déserteur dans le premier segment. Les Nuit Debout sont également des utopistes. Nuit Debout, ovni politique, sans projet ni avenir, enfant de 1968, gauchiste éculé et finalement inutile. Et des gauchistes, donc à éradiquer, Nuit Debout, les zombies de la société, la déchetterie, descendance et assistana post-gauchiste, tirant vite la chasse d'eau. Voilà. Donc la seconde ligne de clivage est cette fois-ci plutôt un moment polémique et elle est liée à l'éviction de l'intellectuel Alain Finkielkraut, place de la République, le 17 avril 2016. C'est un tournant s'agissant de la réputation de Nuit Debout et aussi un bon exemple de la façon dont le contrôle de la réputation peut échapper au mouvement malgré toute la stratégie communicationnelle qui a été mise en œuvre. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, le 17 avril, Alain Finkielkraut s'est fait expulser de la place de la République et insulté. Les versions divergent pour certains de sac juif, pour d'autres de facho, voire les deux, et il se serait aussi fait cracher dessus. Au-delà du débat pour savoir ce qu'il s'est réellement passé, l'éviction d'Alain Finkielkraut place Nuit debout en contradiction avec les valeurs d'ouverture au-delà des clivages politiques traditionnels qui étaient prônés par le mouvement. Tout le monde n'est pas le bienvenu à Nuit debout, qui est dénoncé comme un mouvement antisémite avec l'antisémitisme de la gauche, un mouvement également intolérant et enfin un mouvement radical et fascisant. Cette place est surtout présente du 17 au 20 avril et elle s'estompe ensuite beaucoup. Et on voit aussi que c'est là le sujet qui a généré le plus de tweets, qui montre bien que la polémique génère des tweets ou inversement. C'est assez probant sur l'aspect polémique. Le dernier axe thématique est lié à la question de la violence. On voit clairement que les échanges autour de la violence se structurent ici autour de mots ou de nœuds lexicaux qui sont bien identifiables. Vous pouvez voir violence, policier, casseur, état d'urgence, ordre public en haut. La violence est presque toujours perçue comme négative, mais par contre elle change de camp en fonction que l'on se situe soit du côté des pros, soit du côté des anti-Nuit debout. Pour certains, la violence serait le fait de policiers, ce qui témoignerait de dérives sécuritaires de l'état de droit. Vous pouvez voir les extraits, violence policière et état d'urgence, la France dans le viseur de l'ONU, hashtag Metro News, hashtag CRS, hashtag Nuit debout. Pour Nuit debout, par contre, la stratégie est de se différencier des casseurs, tout en dénonçant en besoin les violences policières avec vidéo à l'appui. Nuit debout ne cautionne pas la casse. Et pour d'autres, enfin, l'existence même du mouvement est intolérable. L'état d'urgence est la défense de l'ordre public, primant sur la légitimité de tout mouvement social. Cette classe apparaît surtout après le 10 avril et connaît des fluctuations en fonction de la médiatisation des évacuations, place de la République surtout, et des violences en marge des manifestations à Paris ou ailleurs.
Avec cette analyse de discours issue de Twitter, nous avons voulu en fait créer une sorte de monographie, un exemple type d'un mouvement qui s'est, dès sa jeunesse, constitué en self-média. Et justement, le rapport aux médias de Nuit debout, finalement, nous remarquons qu'il ressemble beaucoup à d'autres mobilisations comme les Printemps arabes, les Indignés, Occupy, les zadistes de Notre-Dame-des-Landes ou encore les parapluies de Hong Kong qui toutes dénotent d'une attention ou d'une utilisation particulière des outils numériques dans l'engagement des participants. Ce recours, cette appropriation d'outils médiatiques démontre qu'il y a bel et bien derrière, qui est arrivé, une stratégie de communication qui consiste pour ces groupes à se faire média et à privilégier le participatif. Cela entre en résonance avec une volonté d'insuffler une alternative aux médias légitimes, hégémonique ou en tous les cas de tenter de s'affranchir des contraintes et des formats médiatiques traditionnels. Aussi, nous conclurons en nous posant la question d'une tentative possible pour Nuit debout d'expérimentation médiatique et organisationnelle, les deux allant de pair, ayant pour dessein d'unifier des visions du monde et de contribuer dès lors à essaimer un nouveau paradigme de la lutte sociale. On en a dit.
Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très très riche en données. La transition est toute faite avec la communication suivante d'Ulrich Rigoni sur Riot Porn, l'émeute filmée et partagée. Une demi-heure.
Alors bonjour, merci de me permettre de faire cette présentation. Tout d'abord, je vais vous demander un petit peu d'indulgence parce que c'est un travail que je viens tout juste de commencer en fait. Si je me permets de communiquer dessus, c'est parce que c'est très lié au travail que je viens de terminer, qui est une thèse, sur laquelle j'ai passé 5 ans. Et donc, voilà, c'est vraiment lié à ce que j'ai fait, mais c'est quand même un matériau tout à fait nouveau et qui pose de nouvelles questions. Et par ailleurs, je me permets de communiquer aussi parce que ça m'intéresse beaucoup d'avoir des retours, donc surtout des suggestions et des questionnements et des remarques, voilà, n'hésitez pas. Je vais essayer de vous emmener avec moi sur ces 5 étapes-là, très 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 rapidement, en 2 mots sur la place de l'image dans les sciences sociales, je tenais à en parler un tout petit peu au début. Ensuite, me questionner sur ce fameux mot là qui est très vendeur, que vous avez vu sur le nom de ma communication. Ensuite, émeute et vidéo, donc questionner un peu cette histoire-là, ce que j'ai appelé périscope périphérique, et enfin des pistes en place d'avoir des conclusions. Image de sens social, très très rapidement, mais je tenais un peu à dire un 2 mots là-dessus. C'est un rapport qui n'est pas très évident depuis longtemps, même s'il y a de plus en plus de recherches quand même dans les sciences sociales qui portent sur les images. Il y a un certain nombre de gens qui déplorent que, voilà, qu'il n'y ait pas plus d'études, que ce soit en sciences sociales en général, ou que ce soit justement dans la deuxième citation que je vous ai mis, en ce qui concerne soit la sociologie des mouvements sociaux, ou en tout cas de l'action collective. Alors il y a plusieurs explications à ça. Voilà, il y a, soit ce serait un habitus scientifique fondé sur l'écriture et le rapport au texte, soit la spécificité des objets contemporains, qui nécessite des compétences d'analyse spécifiques, donc je ne rentre pas spécialement dans le débat, mais c'était juste pour poser ça. Comment est-ce qu'on peut aborder les images en sciences sociales? Là, je reprends ce qui a été établi par des sociologues, par exemple, donc de distinguer recherche en image avec l'image ou sur l'image, puisqu'il y a quand même des sciences sociales qui se revendiquent du visuel, la sociologie et l'anthropologie visuelle, par exemple. Pour faire très court, c'est donc soit l'image comme source, soit comme outil du dispositif d'enquête, par exemple la photo-élicitation qui a été réalisée par Douglas Harper, soit comme un outil de restitution, par exemple le film anthropologique. Bon, je passe vraiment très vite là-dessus, mais juste pour dire que moi ce qui m'intéresse c'est la recherche sur l'image, qui considère donc l'image comme un objet d'étude, et que dans ce champ-là, les disciplines qui sont un peu... habituelle, ce serait plutôt celle-ci, sémiologie, histoire de l'art, et les études visuelles ou visual cultural studies, et qui ont tendance à traiter donc l'image soit par genre, soit par type de représentation, soit par type d'imagerie. Et que moi, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est à la fois un peu questionner un type d'imagerie, mais pas tout à fait, parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est la question des usages de l'image. Alors usage, c'est un terme en particulier en sciences de l'information et de la communication, qui a une histoire qui est débattue, donc là je l'utilise de manière un peu rapide. Simplement, ce qui m'intéresse, c'est d'interroger des médiations, des constructions de subjectivité, et dans la question qui est celle du contexte contestataire, ou des mouvements sociaux, la construction de l'animation, la convergence du sens, d'un potentiel possible de mobilisation et d'activation de la révolte. Alors, très vite, donc moi ma recherche précédente portait sur les usages de la vidéo dans le processus révolutionnaire tunisien, donc pas ni par les journalistes, ni par les artistes, mais par les gens qui ont vécu ce processus-là. Et dans ce corps, donc moi j'ai réalisé un corpus de plus de 400 vidéos sur lequel j'ai travaillé et qui portait de 2008 à 2014. Voilà, et c'est un peu sur ça que je m'appuie et sur ce travail pour essayer de penser. Cet objet-là. Alors, riot porn. Riot porn, pourquoi est-ce que j'ai mis ce mot? Parce que c'est un mot qui m'a interrogé à un moment donné, qui a été prononcé par un ami, en fait, militant, qui m'a dit au détour d'une conversation, je suis comme tout le monde, je m'appelle riot porn. Et du coup, je m'étais dit, tiens, c'est marrant, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Et donc, j'avais fait un billet de blog à l'époque en me disant, donc, d'où vient ce mot? Qu'est-ce qu'il désigne? Et puis, c'était en janvier 2016, et en fait, quelques mois après, il y a un mouvement contre la loi travail, et le mot se retrouve énormément repris dans les médias, à tel point qu'il y a une journaliste qui m'appelle pour me faire un entretien sur Riot Porn, comme étant donc quelque chose qui existe, qui est un phénomène social, et donc ça m'a beaucoup questionné. Et par ailleurs, il y a à peine quelques jours, puisque ça c'est le 15 février, de nouveau le mot revient en parlant de ce qui se passe en ce moment. D'ailleurs, le journaliste se trompe puisqu'il parle de Porn Riot, donc il l'inverse. Bon, pardon. Alors qu'est-ce que ça veut dire donc? Littéralement, donc ça veut dire porno émeutier. Porn, c'est utilisé en anglais donc pour désigner généralement une pratique obsessionnelle, Donc on parle de food porn, rain porn, enfin il y a à peu près tout, hein, dans, j'ai découvert des trucs incroyables dans ce qui peut être porn, voilà. C'est généralement assimilé aux images et aux images animées, donc c'est là que ça devient intéressant. Et ça, par contre, ça n'existe pas du tout dans la littérature scientifique. Enfin, j'ai trouvé deux occurrences sur la question. Bon, un jeune chercheur qui l'utilise, mais sans jamais le définir, en fait. Voilà. Alors, en fait, en ratissant un peu cette histoire, ce que je comprends, c'est que ça désigne des choses totalement différentes. Ça désigne au moins trois choses. La première, c'est un genre de vidéo, en fait, très simplement, qui serait donc un genre de vidéo qui donne à voir des émeutes. La deuxième, c'est un type de consommation, donc, obsessionnel, compulsif, frénétique de vidéos d'émeutes. Et la troisième, en fait, dans le monde anglo-saxon principalement, ça désigne surtout un type de traitement médiatique, en fait, d'une mobilisation qui mettrait en avant les affrontements et la violence. Donc là, dans le monde anglo-saxon, on va dire CNN fait du riot porn. Voilà. Donc en fait, ce mot désigne un type d'objet, un type de représentation ou un type de pratique. Donc je me suis retrouvée un peu embêtée avec... En tout cas, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ça donne trois pistes. Alors, le type de un traitement médiatique, c'est pas quelque chose que je vais interroger. Je pense que voilà, ça c'est un champ spécifique. Mais en ce qui s'agit d'un type de consommation, je pense que ça reste vraiment interrogé, parce qu'il y a effectivement un phénomène social de consommation de vidéos d'émeutes. Et c'est un genre de vidéo, ça certainement, et j'aimerais bien me questionner un peu là-dessus. Juste pour conclure, en fait, du coup, je vais me débarrasser de ce mot tout de suite. C'est pour ça que je disais que c'était un peu vendeur sur le titre de ma présentation, mais en fait, je pense que c'est pas un mot qui est intéressant. Parce qu'en fait, je pense qu'en fait, ça conduit surtout à désigner un regard déviant, d'abord. Alors, une déviance, donc, c'est d'abord une conception du visuel. Donc, quand on désigne le visuel autoproduit diffusé sur Internet comme de l'ordre de la pulsion scopique, et un répertoire d'action, l'émeute, comme une pratique déviante en général. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on assiste à un retour de termes propres à la conception du regard populaire comme déviant, comme voyeurisme par exemple, pulsion scopique, que j'ai repris dans un certain nombre de textes très récents. On parle aussi de binge-watching, par exemple, donc ça vient de la série télévisée, mais qui est donc cette manière de regarder compulsivement des séries. On parle d'air des images, d'abrutissement du flux des images, donc il y a tout un rapport comme ça à l'image contemporaine, qui est très marqué par ça. Et que je trouve intéressant à interroger, et qui je pense est lié aussi à une mauvaise interprétation de Debord sur sa conception du spectacle par ailleurs. Comme le rappelle l'historien Anselme Jappe, certes c'est très lié à l'action visuelle, ce que dit Debord, mais il dit que c'est un mécanisme de contemplation passive qui n'est pas nécessairement visuel. Voilà, donc juste des petits points pour arriver à émeute et vidéo. Alors, c'est difficile de refaire une histoire de l'émeute dans l'image animée. On peut aller dans beaucoup d'endroits. Bien sûr, on pense à 68, on pense à plein de grands événements, de grands mouvements sociaux comme ça qui ont pu être filmés. Simplement, dire une chose qui est que on va passer de l'émeute filmée par les cinéastes à des figures qui sont plutôt, avec le développement des technologies vidéo, des gens qui ont moins de capital technique, par exemple, à, et là je fais un bond, hein, vraiment je ratisse cette histoire à une vitesse incroyable, à 2006, c'est l'arrivée de YouTube, où il va y avoir donc des automédiatisations et des formes un peu particulières. Ça, je suis désolée. Alors, juste un regard à YouTube, où il y a donc des milliers et des dizaines de milliers de vidéos d'émeutes sur YouTube, qui ont des taux de visualisation très très importants. Donc là, celle-ci, on est dans 800 000, mais ça va jusqu'à 1 à 2 millions. Avec un taux de commentaires aussi très important, hein, ça dépasse les milliers généralement. Et d'ailleurs, dans ces commentaires, je vous en ai mis trois, comme ça que j'ai relevé, mais on retrouve des choses assez intéressantes. Par exemple, donc quelqu'un qui dit « Comment there are much better riot videos ?» Non, mais il y en a des vraiment meilleurs, des vidéos d'émeutes. Non que je regarde des vidéos d'émeutes comme on regarde des vidéos de chats. Hein. Un autre qui dit « Il faut que je fasse attention quand je le regarde parce qu'en fait, ça me rend fou. » Alors, fou, c'est-à-dire, est-ce que ça donne envie de descendre dans la rue ou est-ce que ça donne envie d'en regarder encore? Et « I fucking love riot videos. » Voilà. Bon, mais je vais laisser de côté YouTube sur ce moment, parce qu'en fait, dans ce questionnement-là, j'ai été percutée par quelque chose qui s'est passé dans les derniers jours, vraiment dans ces jours-ci. et qui pose pas mal de questions, et qui est le live streaming, puisque en fait il y a eu un live streaming assez impressionnant de ce qui s'est passé là dans la banlieue parisienne de ces derniers jours. Du coup, un regard très rapide là encore, vraiment en allant très vite à la question du live streaming. Donc ça a été évoqué par les gens qui sont passés avant moi. La naissance du live streaming, je pense qu'on peut le faire remonter plus ou moins à 2010, mais en tout cas moi je vais prendre des jalons comme ça qui sont liés à des mouvements sociaux. Le premier, donc, c'est 2011, c'est Tunis, c'est le Caire, c'est ce qu'on a nommé donc, les printemps arabes, avec là pour le coup ces bambouzeurs à l'époque où on a donc, des directs de la place Tahrir par exemple. Et puis 2011, c'est aussi Zuccotti Park à New York, donc là ça va être la plateforme Ustream, où on va avoir de nouveau des directs depuis le cœur des événements. On a parlé aussi tout à l'heure de Gezi Park. Bon, mis debout, je vais y arriver, mais 2014, Ferguson aussi, moment très important où c'est très proche de ce qu'on observe aujourd'hui, avec là aussi du live streaming depuis les émeutes de Ferguson. Et là, il y a encore beaucoup de choses à dire parce qu'on est sur des live streaming qui commencent à atteindre. Enfin, la visualisation des émeutes de Ferguson, c'est 1,5 million de vues sur certains directs. C'est-à-dire que c'est 40 000 personnes parfois connectées simultanément. C'est-à-dire qu'on est sur un taux d'audience qui dépasse certaines chaînes de télévision. Juste pour se rendre compte de ce que ça veut dire. Et puis, donc en France, bien sûr, 2016. Alors, 2016, sur l'émeute, on va avoir deux types. De regards qui vont être portés. On va avoir la naissance de ces formes-là. Enfin, Taranis n'est pas né vraiment exactement en 2016, mais Taranis et Street Politics, donc qui sont des vidéos montées dans une forme un tout petit peu plus traditionnelle que celle dont je vous parlais sur YouTube, et qui sont mises en ligne a posteriori, même si très rapidement. Et puis donc, l'explosion de Periscope, là encore. Alors, Nuit Debout, oui, donc avec TV Debout en particulier. Mais aussi la figure de Rémi Buisine, le périscopeur, qui va donc émerger comme une figure comme ça du mouvement. Juste, là je m'arrête un instant, parce que je pense que ça donne des pistes intéressantes sur la parole de ces filmeurs-là, qui insistent tous d'une manière ou d'une autre, même si après dans la parole publique et puis dans ce qu'ils font, il y a des nuances, mais qui insistent tous pour revendiquer un peu un statut soit d'observateur, parce que Rémi Buisine ne se définit pas tout à fait comme journaliste, soit de journaliste, finalement, indépendant. Donc voilà, je dis, c'est flou, parce que Gaspard Ganz dit ça médiatiquement, mais après, je crois savoir qu'il a un discours qui est un peu moins ambigu devant moi. Et alors, moment très intéressant, en 2016, et là, c'est comme ça que j'arrive à ce que j'ai appelé des périscopes périphériques. Il va y avoir un certain nombre d'articles sur ces scènes d'émeutes filmées et retransmises sur Periscope à Grigny. Donc là, il y a un espèce de pic comme ça, d'une journée, deux jours, dans le monde médiatique, qui va parler donc de ces fameuses émeutes filmées sur Periscope à Grigny, comme étant un événement, quelque chose d'absolument étonnant, que l'on filme les émeutes. Alors là, c'est des gens qui sont à la fête. Tout ça m'amène à il y a donc quelques jours, en février, donc voilà, il y a vraiment quelques jours, et en particulier à un live, donc là juste pour vous, donc j'ai choisi un périscopeur, je vais vous expliquer aussi les contraintes techniques que ça représente et quelles questions ça pose pour la recherche, parce que vraiment c'est excessivement compliqué de faire ce travail-là, enfin, ça veut dire que... En fait, j'ai très très peu dormi ces derniers temps, pour faire court, parce qu'en fait, je ne peux pas accéder... Déjà, YouTube, c'est une galère insensée, mais alors Periscope, c'est pire. C'est-à-dire que Periscope, on ne peut pas faire de recherche en arrière. C'est le principe du live, donc on ne peut rechercher des mots, par exemple, que sur ce qui se passe à ce moment-là. Pas du tout sur des contenus qui ont été mis avant, avec des titres dans lesquels il y aurait eu émeute, par exemple. En fait, je ne peux pas accéder à ce qui a été fait un jour avant, ou même quelques heures avant. Donc juste pour vous dire que je suis obligée de travailler en live, qui est un peu fou et qui pose des questions sur la recherche pas mince. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez tous, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Suite à donc, l'affaire Théo, il y a un certain nombre d'émeutes qui ont commencé en partant d'Aulnay, mais pas seulement, très très vite dans, pas mal de villes de la banlieue parisienne. Et c'est, donc, ces émeutes ont été filmées et retransmises sur Periscope. Il y en a un en particulier, qui est ce jeune homme-là, qui est de Clichy-sous-Bois, qui a filmé pendant 10 jours ce qui s'est passé en se déplaçant en voiture dans toutes les banlieues parisiennes et en faisant des lives. Alors c'est des lives qui vont de quelques minutes parce qu'il est en train de tâtonner à 3 heures à peu près. Donc là, il y a déjà plus de 20 heures de production en quelques jours. Enfin, donc là, on est aussi sur des échelles d'analyse qui sont très très compliquées. Alors, je vous ai mis juste quelques-unes aussi pour avoir un œil au titre, à comment est-ce qu'il nomme les choses. Alors, en particulier, donc, il y a un live qui se fait juste après la manifestation de Bobigny, donc, qui était le 11, si je ne m'abuse, et qui donc, dégénère après. Et donc, il a filmé pendant quasiment toute la nuit, jusqu'à 3h du matin à peu près, ces émeutes-là dans Bobigny. Ce live-là, il arrive à 7000, 8000 spectateurs simultanés, mais par contre, plus de 300 000 vues a posteriori. Dans la soirée, il est relayé et réapproprié par France 2, aux 20h, ce qui mène d'ailleurs à tout un dialogue entre lui et ceux qui le suivent sur « on m'a volé les images, qu'est-ce que j'ai le droit, qu'est-ce que j'ai pas le droit ?» Enfin, voilà. Et aussi, ça rebondit immédiatement dans la fachosphère, qui vont se servir de ces images, parce que dans ce moment d'émeute, il y a un moment donné où les certains jeunes crient à l'arbre de balle. Et donc, évidemment, il y a une récupération de la fachosphère de cette séquence-là aussi. Donc ça va très très vite. Il y a une dissémination de ces images. Alors, je vais vous montrer quand même ce que ça donne, très rapidement, même si c'est très compliqué, parce que donc là, je suis obligée de parler de technique, parce qu'en fait, il s'avère que je suis sur des formats. Donc, d'abord, trouver des solutions pour télécharger ces contenus. Et ensuite, je suis sur des formats que, pour le moment, je n'ai pas trouvé le logiciel qui me permette de circuler dedans de manière efficace. Donc, je n'ai pas de timecode. Donc, je n'ai pas pu fixer des timecodes pour vous montrer des choses précises que je voulais vous montrer. Donc, du coup, ça va être un petit peu improvisé. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comme ça un certain nombre de morceaux pour que ça vous donne en moins une idée de ce que c'est. Sachant qu'il faut se replacer dans l'idée que vous devriez imaginer que c'est tout de suite, maintenant, que ça se passe à Bobigny. Ou à Clichy, ou voilà, pour aussi saisir une part de ce qui se joue là. Un des premiers lives.
Ah là, je vois les commentaires. Là, je vois les commentaires. Enfin, bonsoir à tous. Allez, un tonnerre d'applaudissements. Hey, je suis heureux, je vois les commentaires, vraiment. Pourquoi pas, je vois les commentaires. C'est son premier jour. Ah, félicitations, Fred, c'est ton premier jour sur Snap. Enfin, bonsoir. Bonsoir à tous, enfin, à Drapeau Algérie, Tachka. Donc là, je vous montre un peu qu'est-ce qui se passe. Il y a rien, s'il y a quelque chose. En fait,
c'est la vie aux commentaires, je ne peux pas capter.
19,
là,
pour l'instant,
il y a des commentaires qui apparaissent.
C'est encore calme parce que, comme hier, ça commence à 22h30, 23h vraiment. Et vous avez pu le constater, ça a fini à 2h. Je suis rentré chez moi, il était 3h30. Et voilà, donc là, on est dans le check-out, on est au chêne pointu. BFM mort de rire. On est au chêne pointu, on a cliché sous bois. Ceux qui ont mon snap, ils ont pu voir sur mon snap que les CRS, la police, elles sont venues en masse. J'ai pris mon chargeur.
Réponds à un commentaire, tu me dis que t'as pris ton chargeur.
Moi, je suis Bernard de la Villardière, les Mohamed de la Villardière derrière. Les best périscopeurs là, MDR. BFM, Péri. Hier, c'est la balle qui vous est passée. Hier, c'est la balle qui vous est passée.
Alors, premier exemple, voilà, juste pour vous donner des idées. Ensuite, donc ça, c'est le 9.
Sûrement on va passer aussi au Bain-Ménil, on prend 6 bandits, Roumanie, Macédoine. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier. Et je vais vous expliquer ce qu'il y a eu à Vichy, à Montfermeil, s'il y a eu des choses ou pas. Alors, hier, qu'est-ce qui s'est passé hier? Je vous avais promis une vidéo, justement. Un live. Je vous ai promis un live.
Avance un petit peu, justement.
Qu'est-ce qui se passe? Et on pourra aussi aller à Masse Le Grand, mais s'il vous plaît. Masse Le Grand, c'est grand. Sans jeu de mots, d'ailleurs. Dites-moi dans quelle zone de Masse Le Grand.
Voilà, donc juste pour là, il y a déjà pas mal de choses qui sont à dire. J'arrive au 11, donc, qui est la fameuse manifestation de Bobigny. Donc juste, il a commencé avant, hein, déjà.
On vous êtes de retour, ça bouge, je suis en direct.
Sur d'autres périscopes, j'ai vu des débats de gens qui disaient ouais, donc en gros ils vont à Bobigny, donc ils vont à Bobigny alors qu'ils sont d'ailleurs.
Enfin, bah, c'est toi qui as filmé ça?
Non, c'est pas moi qui ai filmé ça. Non, non.
Je ne sais pas si c'était toi.
Bah non. Ça, c'est la fin. Alors, il y a plein de choses que je ne vais pas vous dire parce que je ne vais pas vous les montrer. Parce que je ne vais pas les retrouver en fait. Par rapport au début, c'est qu'il se met à filmer vers les pieds et plus, voilà, et plus à filmer comme il fait au début, en fait, il fait pas du tout attention au visage, et vers la fin du live, il commence à faire attention, en fait, et il filme vers les pieds. Alors, bon, c'est difficile parce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup à montrer, il se passe beaucoup de choses dans toutes ces heures-là. Juste plusieurs choses que je voulais dire. D'abord, il va plusieurs fois montrer son autre téléphone en montrant BFM en direct. Et donc en disant que justement lui il est en train de faire ce que BFM ne fait pas, regardez, BFM ne montre pas ce qui est en train de se passer, après moi j'y suis. Ensuite, il montre régulièrement son téléphone aussi parce qu'il a fait une cagnotte sur Litchi où il demande à ceux qui regardent de donner 1€, 2€, donc régulièrement il va le répéter, pour récupérer ses points qui s'est fait retirer la veille en faisant son périscope et donc lui permettre de payer son rattrapage de permis. Ouais, et donc, et à la fin quand même de ces 3 heures et quelques, il va réussir à obtenir à peu près 500€ qui était la barre qui s'était fixée. Donc voilà, en remerciant systématiquement chaque internaute qui met, etc. Voilà. Autre chose, donc lui dans ce dialogue-là, à un moment donné, il dit Donc il intervient régulièrement, il parle régulièrement, donc on accède à des, d'abord, au-delà en fait de l'image, on accède à un terrain on peut faire, qui est vraiment saisissant en fait, parce qu'on accède à des discussions internes, de débats, de débats internes dans qu'est-ce qu'il faut casser, qu'est-ce qu'il faut pas casser, mais foot locker, si on casse on va nous l'enlever, enfin il y a des discussions vraiment incroyables auxquelles on a accès. Et au-delà de ça, lui, plusieurs fois, se pose comme médiateur et dit « moi, je suis un médiateur, en fait ». Donc lui, il crie pour ne pas attaquer les pompiers, par exemple. Voilà, donc quelle position qui est fluctuante tout le long. Alors, juste, donc il y a ce moment, c'est à la suite de ce live-là qu'il se retrouve avec une espèce de semi-célébrité, c'est-à-dire que donc, il est repris par France 2, par la Fachosphère, il se retrouve avec plus de 300 000 visualisations, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que donc il va répéter tous les soirs de se remettre à filmer. Donc, il part de Clichy, de son quartier, donc Échelle Pointue, et puis il va circuler dans la banlieue parisienne pour voir ce qui se passe. En disant donc, vous avez envie de savoir ce qui se passe de vos propres yeux, moi aussi, on y va ensemble. Mais un truc qui m'intéresse, et je vais essayer de terminer là-dessus, donc en allant très vite, c'est qu'au milieu de ça, il va aussi mettre ce moment, donc par exemple, un live qu'il appelle Ce soir, c'est repos pour moi, où il se montre dans un bar à chicha. Et donc pendant quelques minutes simplement et échange quelques trucs avec les commentaires donc au milieu donc voilà, incruste cette part de là. Ce qui est intéressant c'est qu'en fait c'est la pratique majoritaire des jeunes que moi j'ai pu trouver de voilà, Bobigny, Clichy, etc. dans les jours précédents et de la pratique habituelle c'est en fait, le périscope c'est une pratique de l'ennui entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils se filment majoritairement dans des voitures, en groupe ou chez eux pour essayer d'établir un dialogue. Et donc là, j'ai trouvé, alors, il y a énormément comme ça de périscopes dans les voitures, de groupes de jeunes qui sont dans les voitures et qui se filment et puis qui espèrent que des gens se connectent et puis qu'en gros, un dialogue se fasse. Quoi. Alors, très très vite, du coup, vraiment, ça s'est accéléré, quelques pistes. Déjà, moi, ça me pose des questions dans une espèce d'évolution du rapport à l'autoreprésentation et aussi à ce rapport à la caméra. On passe de 2006 à la... YouTube qui va consacrer finalement le vidéoblog, donc cette forme face caméra où on est seul, où il y a une adresse à une collectivité imaginée qui répond ensuite éventuellement soit par commentaire, soit par d'autres vidéos face caméra. À 2010, chatroulette, quand même, qui est un moment important où là il y a une simultanéité des caméras et aussi du commentaire. À cette forme-là qu'on a aujourd'hui, qui est une espèce de vidéoblog chat, on ne sait pas vraiment, où les gens se filment très rarement, donc ils retournent la caméra sur eux, mais assez rarement en fait. En tout cas, dans ce que j'ai montré là de ce qu'il filme lui, hein. Il le fait une fois à un moment, ça c'est lui, mais c'est assez rare. Donc voilà, ça pose des questions sur ça. Ça pose des questions sur l'évolution justement de la question d'un essaim ou justement de figure qui émerge. Donc ça c'est pareil, c'est très haché et très. Comment dire découper ce que j'en fais, mais disons qu'il y a des figures comme ça qui émergent, parce qu'aux États-Unis aussi, il y avait Tim Poon, qui était un journaliste, deux périscopeurs, par exemple, de gens qui filment, et puis on a des formes plutôt dessins, voilà, je vais revenir là-dessus pour clarifier mon point. Voilà, à mon avis, les pistes que ouvrent ces objets. Alors la première, et donc je dépasse mon temps, pardon, je prends encore une minute, ce serait de poser la question, donc est-ce qu'il y a une arrivée du public dans le privé ou du privé dans le public, c'est-à-dire une subjectivation de l'information ou une pénétration de l'événement dans la parole intime. Parce que moi ce qui m'intéresse là-dedans, et la question que m'a beaucoup posée aussi dans ma thèse, c'est dans quelle généalogie est-ce que je place ces objets en fait. Est-ce que c'est dans la généalogie du film militant, donc des pratiques militantes de l'image, ou au contraire des pratiques communes, donc dans le film de famille. Et en fait, bien sûr, on est à l'intersection des deux, maintenant, justement. C'est là que ça devient intéressant, il me semble. Donc, singularisation ou anonymisation, c'est ce que j'essayais de dire. Mais aussi, donc, si on pense à la question de l'action collective, dans quelle forme est-ce qu'on est, justement, dans ce qu'avait souligné donc, dans Média Activiste, est-ce que c'est une forme contre-hégémonique ou est-ce que c'est une forme expressiviste? Parce qu'il y a une revendication de faire mieux que BFM. Et en même temps, il y a bien sûr une forme expressiviste. Ça pose des questions sur la question de l'enregistrement, bien sûr, parce qu'on n'est plus du tout dans un enregistrement de la trace, qui était encore le cas moi, dans la révolution tunisienne. Là, ce n'est plus du tout le cas, puisque c'est quelque chose qui reste en ligne mais qui en fait disparaît, puis ça devient inaccessible de fait. Et ça pose une question énorme sur la mémoire des luttes. Et ça, ça fait quelques temps que ça dure déjà. Et un peu ma question, c'est cette dernière-là. Vers une société synoptique pour l'intégration. Alors, synoptique, pas au sens de Mathiessen, qui est de dire qu'en fait, on a un retournement de la surveillance. Mais synoptique au sens voilà, d'un triomphe du cop-watching, point d'interrogation. L'exercice du droit de regard, ça pose plein de questions. Et enfin, je vais vraiment super vite parce que sinon je dépasse trop, ça pose des questions en termes de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire de faire de la recherche dans live et comment est-ce qu'on peut penser ça? D'abord, moi j'ai été prise par l'urgence de l'archivage et de trouver des solutions techniques qui m'ont pris en fait tout le temps avant même de pouvoir réfléchir à la démarche d'enquête. Je suis prise par des questions techniques qui sont extrêmement handicapantes. Ça pose des questions aussi en termes d'analyse de l'image que moi j'avais déjà rencontré dans mon terrain précédent, qui était comment est-ce qu'on interroge des objets dans lesquels l'intention est extrêmement difficilement détectable, enfin parce qu'on n'a pas de montage. Voilà. Et là on est au summum de cette question. C'était déjà le cas dans les formes que moi j'ai étudiées, mais là il n'y a même pas une vidéo qui s'arrête à un moment donné. Enfin, c'est on allume, on éteint. Voilà. Donc je ne sais même plus comment interroger ces formes-là visuelles. Voilà, j'ai jeté plein de cailloux. Je ne sais pas si vous avez réussi à en attraper.
Merci. Bien, merci à toutes et à tous. On a prévu un petit quart d'heure de pause. Il y a du thé, du café et quelques boissons à droite. Et donc on revient pour la discussion dans un quart d'heure.